RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Ce soir, nous recevons un autre Frédéric. Frédéric Dabi, politologue, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors Emmanuel Macron s'est longuement exprimé aujourd'hui lors d'une interview pour le 14 juillet. Cette interview jetée aux orties lorsqu'il est arrivé à l'Élysée. Eh bien, cette interview a repris tout son sens à l'heure où la France tente de se remettre de la crise du Covid, où les soignants qui ont bataillé contre le virus ont été mis à l'honneur lors de la cérémonie de la fête nationale. Vous qui sondez depuis des années la tête et les cœurs des Français, nous allons analyser avec vous les propos du président et faire un bilan d'étape, en quelque sorte, de 3 ans passés à l'Élysée, et puis surtout comprendre pourquoi il est impopulaire. Écoutez sa réponse à la question « Pourquoi vous n'êtes pas parvenu à réconcilier les Français ?» On écoute sa réponse.
Je n'y suis pas parvenu. Est-ce que ça veut dire que je vais arrêter de me battre, d'essayer de convaincre, de porter un tel projet ? Non. Mais j'ai sans doute fait des erreurs qui ne m'ont pas permis d'y parvenir, et puis nous avons vécu le chaos, si je puis dire, et le grand fracas du monde.
Alors Frédéric Dabi, il explique juste avant cet extrait que la France est un pays qui doute de lui-même et qui est en proie aux passions tristes. Est-ce que c'est en quelque sorte 50-50 dans la balance ? C'est vrai que c'est un pays qui doute de lui-même, qui n'est jamais content. Et puis les erreurs, les maladresses d'Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat. C'est du 50-50 ?
Alors je dirais pas ça comme ça, mais c'est vrai qu'il a été, Emmanuel Macron, en continuité avec des interventions présidentielles précédentes, avec d'un côté un ton volontariste et optimiste, qui donne en relief ou en contraste ce qu'il appelle les passions tristes, le manque de confiance des Français, lorsqu'il dit qu'il y a le doute permanent sur nous-mêmes. C'est vrai que dans les enquêtes d'opinion de l'IFOP, on le voit, une enquête très récente pour le JDD à la veille du déconfinement, montrait un pays, des Français qui reconnaissaient avoir des atouts dans leur pays, avoir confiance dans leur pays, mais en même temps se vivant en déclin et manquant de confiance en eux-mêmes. Ça se voit dans le pessimisme de projection qu'on a le sentiment, et la France est le seul pays dans ce cas, on a la certitude que ses enfants vivront moins bien que soi dans les 10 années à venir. Ce qui est vrai aussi, là aussi il était en continuité, Roselyne, c'est sûr, ces actes de contrition, cette introspection sur la détestation qu'il peut provoquer, où il a parlé quand même de réformes qui n'étaient pas assez justes, il a parlé d'absence d'explication, des réformes faites contre les gens, il a rappelé la crise des gilets jaunes. On a ce président qui est toujours sur ses deux jambes, c'est-à-dire une jambe optimiste, volontariste, pour secouer un peu le malaise et le pessimisme français, mais en même temps, parce que c'est un président, vous le disiez, qui est structurellement impopulaire, même s'il garde un socle de popularité très important, ce qui, dans un contexte de fin de bipolarisation, peut lui assurer une réélection, mais bien sûr, on n'en est pas là, qui continue à regretter des actes, des moments lors de son quinquennat, quand il parle des réformes qui ne sont pas justes. On pense bien sûr à l'ISF, même s'il a bien dit qu'il ne toucherait pas, et à cette fameuse baisse des appels de 5 euros qui est un peu son péché originel.
Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cette expression passion triste, parce qu'il l'a utilisée à de nombreuses reprises. Emmanuel Macron est un homme de grande culture, qui s'exprime très bien, une qualité de langue qui devient d'ailleurs assez rare dans le monde politique. Mais quand il parle de passion triste, d'une part, de quoi parle-t-il exactement ? Et est-ce que vous êtes sûr que c'est une expression qui a du sens pour l'ensemble des Français, qui voit exactement de quoi il parle ?
Votre interrogation, oui, je la partage. C'est pas un terme qui est courant chez les Français. Nous, dans nos enquêtes qualitatives, on fait s'exprimer les Français. Et ils parlent de défiance, ils parlent de malheur, ils parlent d'inquiétude, ils parlent d'angoisse sociale. Ils ne parlent quasiment jamais de ce terme de passion triste. Ce qu'il veut dire, et là il est aussi en continuité avec certains présidents de la République sur d'autres thèmes, quand Georges Pompidou parlait de l'époque terrible, il parlait de l'occupation et de la libération, et les Français ne s'aimaient pas, Emmanuel Macron parle de ces divisions. Et c'est vrai que son mandat, c'est quand même des moments extrêmement durs, de division, de fracture dans le pays, cette crise des gilets jaunes, cette réforme des retraites qu'il n'a pas abandonnée, même s'il a vraiment, il est maintenant sur une logique, je dirais, de prendre son temps et d'être dans une logique de dialogue. Il l'a légitimé sur la crise économique que le pays traverse, mais très clairement. Et on avait aussi ça sous Nicolas Sarkozy, un pays extrêmement fracturé et ce que j'appellerais un clivage gros-petit qui écrase tout, c'est-à-dire que tout ce que une partie des Français, tout ce que peut faire Emmanuel Macron, tout ce que peuvent faire les pouvoirs publics est vu comme des cadeaux aux plus riches, aux possédants, et quelque chose qui ne leur bénéficie pas. Il l'a dit très clairement lorsqu'il parlait des réformes qui n'étaient pas comprises, notamment par les futurs gilets jaunes, et des réformes qui ne les concernaient pas.
Alors, le président Frédéric Rivière l'a rappelé, est un président qui use un langage parfois un peu suranné, ou des versions latines, on va dire.
En battant, in petto.
In petto, voilà.
Les mystiches aussi, aujourd'hui.
C'est un très beau terme.
Et pour relève du mandat, poésie, très joli terme, voilà, en effet. Mais...
Il l'avait déjà utilisé, vous voyez, mais ça relève plus de la poésie que,
voilà.
que du latin.
Et je me disais, dans le fond, est-ce que les gens... Alors, in petto, c'est vrai, il faut regarder, ça veut dire en son fort intérieur, mais bon, après, il explique in fine, enfin voilà. Est-ce que tout le monde parle comme ça? C'est pas évident aujourd'hui. Mais la question qui suit, c'est est-ce que les Français comprennent ce que leur raconte le président de la République? C'est-à-dire qu'il leur parle émancipation, il leur parle d'émancipation, dépassement politique... voilà, est-ce qu'ils comprennent
alors,
ces Français où les emmène le président, ou c'est vraiment un incompris cet Emmanuel Macron?
Alors, il y a le fond et la forme. La forme, ce langage parfois un peu suranné, d'expression choisie, qu'il utilisait déjà quand il était à Bercy, on se souvient de ses dialogues assez savoureux avec Cyril Eldin. Les Français comprennent ce que veut dire Emmanuel Macron. Pour autant, dans les enquêtes de popularité, et on diffuse aujourd'hui le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match, la dimension sur laquelle Emmanuel Macron est le plus sévèrement jugé, c'est qu'il comprend les préoccupations des Français. Il y a l'idée d'un président, non pas sur son langage, mais sur son action, qui est relativement déconnecté avec les réalités que connaît le pays. Alors, la critique sur l'arrogance...
La question, c'était, est-ce que les Français le comprennent?
Je pense qu'il y a des choses qui sont claires, qui ont été crantées. N'oublions pas aussi, parce qu'il faut être, juste, c'est le président qui a connu le plus de rebonds de popularité sous la Ve République. On dit traditionnellement que l'impopularité est un chemin sans retour, sauf circonstances exceptionnelles, cohabitation, crise. Lui, il a connu trois moments de rebond. Le dernier, c'est cette crise du Covid, même s'il a reculé deux points dans notre enquête de ce jour. Il a un socle qui le comprend. Il a cette identité réformatrice qui est clairement un vrai levier de soutien. Et là, je reviens sur sa manière de s'exprimer, sa manière d'incarner la fonction chez beaucoup de Français. Il y a une logique de distinction par rapport à ses prédécesseurs qui séduit. Mais Emmanuel Macron, je l'avais dit dans un papier pour le Figaro, c'est à la fois le problème et la solution pour les Français. La solution chez une partie minoritaire des Français, mais qui n'est pas négligeable, 38% dans l'enquête de ce matin, qui considère que c'est le seul qui... Il n'y a pas d'alternative, c'est le seul à son poste, on voit aucune force d'opposition émerger, et c'est le problème chez beaucoup de Français qui le rejettent, moins sur son style que sur le sentiment qu'il ne connaît pas le pays, qu'il est éloigné de leurs préoccupations et qu'il mène une politique injuste. Et il a bien fait de mettre le doigt là où ça faisait mal quand il a parlé de réformes qui étaient perçues comme injuste. On est là au cœur du mécontentement des Français vis-à-vis d'Emmanuel Macron, dans un contexte où une crise économique arrive de manière extrêmement forte et Emmanuel Macron, comme Giscard d'Estaing, comme Nicolas Sarkozy, va finir ce mandat et va sans doute se représenter dans un contexte de crise. Ce n'est pas anodin.
On dit beaucoup d'Emmanuel Macron que c'est un séducteur. Tous les gens qui l'ont rencontré disent que pendant les quelques minutes ou un peu plus où vous êtes avec lui, vous avez l'impression d'être la personne la plus importante du monde. Dans quelle mesure, si c'est vraiment un séducteur, ça influence sa façon de faire de la politique?
Ah, c'est une question compliquée. En tout cas, je dirais que les Français ne se placent pas sur ce terrain-là. La séduction peut être citée par des Français. Il y a aussi dans les critiques, et je n'en ai pas parlé.
Mais elle joue lors d'une élection, la séduction.
Oui, bien sûr. Le sentiment, parce que dans l'imaginaire des Français, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un pays, les candidats qui regardent la France au fond des yeux, comme disait qui vous savez. C'est vrai aussi que, au-delà de ce côté séducteur, on va vite de la séduction à la tromperie, de la séduction au sentiment d'un président qui est acteur. Et ça, c'est très fortement cité dans nos enquêtes qualitatives. Il y avait aussi un risque de démonétisation de sa parole. N'oublions pas qu'il a fait de très nombreuses interventions ex cathedra, pour utiliser une expression latine, où il était en majesté, où il était dans des allocutions, 16 mars pour annoncer le confinement, le 13 avril pour annoncer le déconfinement. Et là, ça a aussi décuplé le sentiment qu'il n'était pas sincère, ce manque d'authenticité, là, dans une logique d'intermédiation avec des journalistes. Je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Il a peut-être pu réduire par sa capacité à séduire ce sentiment chez beaucoup de Français, chez une majorité de Français, d'un manque d'authenticité, de tromperie. Mais au-delà de ça, n'oublions pas, les Français constituent un peuple politique, ils jugeront Emmanuel Macron sur les résultats. Il y avait aussi beaucoup de débats sur l'incarnation de la fonction par Nicolas Sarkozy. Ce qu'il a perdu, il a perdu finalement de peu en 2012, c'est l'absence de résultats dans un contexte de crise économique. Suivez mon regard.
Alors, je voudrais qu'on dise un mot de la réforme des retraites, puisque le président Macron s'y agrippe, puisque la question lui a été posée là encore. Pourquoi, le président Emmanuel Macron continue de vouloir faire cette réforme des retraites? Écoutez-le.
Elle ne peut pas se faire comme elle était emmanchée avant la crise du Covid. Est-ce que c'est une bonne idée de l'abandonner totalement? Je ne crois pas.
L'amender, oui.
La remettre à la discussion, à la concertation.
Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron s'agrippe à cette réforme par gloire personnelle, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, il voudra que dans quelques années, on parle de lui comme on a parlé de Schröder en Allemagne ou plus loin encore, même s'il n'a rien à voir, Thatcher en Grande-Bretagne, qu'on parle des réformes Macron et dont il aura été l'instigateur, le réformateur, le transformateur?
Gloire personnelle, je n'en sais rien, même si on sait que les présidents aiment à laisser une certaine postérité. Je pense qu'il y a un choix politique qui est fait. Je disais qu'il y avait un double enjeu dans cette intervention. Préserver l'identité réformatrice, qui est un levier essentiel de la popularité d'Emmanuel Macron. Et donc, dans ce cadre, Emmanuel Macron doit envoyer des messages à son socle. Cette Sainte Alliance dont on avait parlé dans quelques émissions de
son socle, c'est toujours le centre droit, la droite.
C'est ce que j'appelle une Sainte Alliance entre sympathisants d'En Marche. Il a encore trois quarts de son électorat de 2017 qui le soutient, qui approuve, c'est le sondage de ce matin, et sa capacité à séduire une part presque majoritaire d'électeurs de François Fillon, de sympathisants de droite. Et ce socle de droite est attaché aux réformes. Et la réforme des retraites, après la réforme du droit du travail en 2017, la réforme de la SNCF en 2018,
oui,
série de réformes. Et il a bien fait de remettre son action en perspective. Là aussi, où il y a un élément de continuité très fort par rapport à des interventions passées, c'est qu'Emmanuel Macron assume son bilan. Il a fait une référence au tournant mitterrandien de 83, au tournant chiracien de 95, lui, il assume son bilan et dans ce cadre, il ne peut pas ne pas abandonner complètement la réforme des retraites, même si, vous le disiez, elle a mis la France dans la rue et elle était finalement assez peu suivie. Là, il s'est laissé du temps. Il a parlé de dialogue, il a mis en avant les capacités de négociatrice de Jean Castex, qui lui sont reconnues par une majorité de Français. C'est peut-être le seul point d'image qu'il a pour l'instant, cet inconnu de l'hôtel Matignon. Il a parlé du système financier, c'est-à-dire que maintenant, par rapport à ce qu'on lui disait pendant la campagne, il y a une question de financement du système des retraites, mais il n'a pas fermé la porte à le fait de mener cette réforme. Pour lui, c'est absolument indispensable.
Mais il est resté un peu flou sur la question.
Quand
on lui a demandé si c'était ni tout de suite ni aux calendes grecques, il a dit oui, et c'est exactement ça. Donc, entre tout de suite et les calendes grecques,
il y a de la marge. Mais vous remarquerez aussi, Frédéric, que lorsqu'en fin d'intervention, on l'a mis face à l'hémistiche de son quinquennat, les 600 jours, la préparation d'élections présidentielles, il a cherché systématiquement à enjamber cette échéance en se projetant sur les 6 mois, où en sera la France en termes de catastrophe économique, dans les 18 mois en termes de reprise, voire dans 10 ans. Ouais. Lorsqu'il dit, nous avons 10 ans pour faire ce que pendant 30 ans, nous n'avons pas réussi à faire. C'est cette capacité à faire cette projection qui lui assure un soutien minoritaire dans le pays, mais un bloc extrêmement solide, à la différence de François Hollande, par exemple.
Alors, Emmanuel Macron répondait à des questions. Mais on sait que quand un président de la République ou un responsable politique veut aborder un sujet, y compris pendant une interview, c'est le faire. Il n'a pas été question de sécurité, ou presque pas, notamment, par exemple, de ce qui s'est passé à Bayonne, avec ce chauffeur de bus qui a été tué dans des conditions épouvantables. Une affaire qui a beaucoup ému les Français. Est-ce que c'est une erreur que ce sujet-là n'ait pas été abordé?
Modestement, je pense que c'est une erreur. Quand on regarde les enquêtes d'opinion dans notre baromètre Ifop Fiduciel pour Paris Match diffusé ce matin, cette tragique agression à Bayonne est le deuxième sujet dont les Français ont le plus parlé, toutes catégories politiques confondues, derrière la question de la propagation de l'épidémie du coronavirus. C'est quand même plusieurs occasions où, au-delà de la sécurité, le président a très peu parlé de sujets régaliens, d'identité d'immigration. Ce sont des sujets qu'il peine à aborder. Il aurait peut-être dû parler de sécurité, même s'il a parlé, il a fait un pas de côté en parlant des questions des contrôles aux faciès, des futures caméras qui armeraient, entre guillemets, les policiers sur le terrain. Mais clairement, on est dans un contexte extrêmement dual. D'un côté, les questions économiques sont redevenues au cœur des préoccupations des Français. C'était une enquête IFOP pour la Tribune. Quand on parle de réinventer le pays, quel est l'enjeu majeur à court terme? C'est la relance de l'économie. Pour autant, les Français n'opposent pas, comme le disait le président, la fin du monde aux fins de mois. Et on voit maintenant cette juxtaposition de ces deux enjeux. Cette bataille d'Hanani est maintenant derrière nous. Mais pour autant, les questions sécuritaires, les questions régaliennes sont des questions centrales et ça laisse peut-être un coin et une ouverture pour par exemple, un réceptacle pour le RN ou pour un discours de droite.
Alors justement, est-ce que la droite peut se réveiller parce qu'il l'étouffe en ayant choisi d'abord Édouard Philippe, en choisissant un autre homme de droite, Jean Castex, il étouffe la droite jusqu'en 2022, est-ce que cette droite-là peut se réveiller? Et d'autre part, est-ce que la droite n'est pas non plus piégée par Emmanuel Macron qui fait une politique de droite? Et donc, il y aura encore un face-à-face Macron-Le Pen.
Alors sur ça, sur ce que sera la présidentielle dans maintenant 600 jours, il faut être extrêmement prudent. Et ce qui s'est passé en 2017, hein, Emmanuel Macron a été testé pour la première fois en avril 2016, doit nous inciter à une très forte prudence. C'est vrai que la stratégie utilisé depuis 2017, étouffer la droite, asphyxier la droite avec un Édouard Philippe dont la première déclaration avait été « je suis un homme de droite », Jean Castex qui, du point de vue de son profil, lui ressemble, et ça marche dans la mesure où Emmanuel Macron parvient à capter une part importante de sa partisan de droite, mais attention au risque d'avoir remplacé Édouard Philippe qui tenait l'édifice macronien à droite par Jean Castex, peu connu des Français, même s'il a un profil équivalent. Dans le baromètre dont je vous parlais ce matin, Emmanuel Macron connaît une chute très sévère de 12 points chez les sympathisants des Républicains. Pour autant, on a ce cas de figure où à gauche, il y a clairement un espace qui s'ouvre, mais un déficit d'incarnation. Et à la droite, il y a des incarnations présidentielles sérieuses, Xavier Bertrand, François Baroin, voire Valérie Pécresse ou d'autres personnalités. Et un problème d'espace qui fait que une partie très importante de sympathisants de droite, et ils soutiennent majoritairement Jean Castex pour ceux qui le connaissent, considèrent qu'Emmanuel Macron fait une politique de droite, de centre-droit. Mais la question du régalien, la question de ces sujets mis sur le côté pourrait réouvrir un espace.
Voilà, on est arrivé au terme de cette émission. Merci Frédéric Davy.
Merci, et au terme de notre année, ce sera à la fin de l'année, mais de cette saison, puisque c'est la dernière de Mardi Politique, et on se retrouve en septembre, début septembre, tout début septembre.
Peut-être le premier, je ne sais pas. Le premier mardi de septembre.
Voilà, exactement. Donc merci à tous, merci Frédéric Davy, et bel été à vous tous. Merci à Narimane Lawadi et à toute l'équipe technique, et à très vite.